Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Nicolas Sarkozy, la justice et les médias, faut-il faire le procès de la procédure? D'abord, on va rappeler la procédure. Nous sommes en compagnie d'Hervé Léman. Vous êtes ancien juge d'instruction, avocat au barreau de Paris, expert de la procédure pénale et vous avez publié le procès Fillon aux éditions du Cerf. Vous avez également participé à la rédaction du rapport de l'Institut Montaigne sur la réforme de la justice. À côté de vous, nous accueillons Caroline Michel. Bonjour. Vous êtes journaliste au service enquête de l'Obs. Vous avez notamment suivi cette affaire qui concerne Nicolas Sarkozy au sujet d'un présumé financement libyen de sa campagne. Que sait-on aujourd'hui, Caroline Michel? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses de dites, notamment Nicolas Sarkozy qui a évoqué des faux. On a évoqué différentes sommes d'argent, 50 millions d'euros, puis 6 millions d'euros et puis 30 000 euros en liquide. Bref, on ne sait plus trop ce que l'on peut savoir de science certaine. Dites-le nous, selon vous.
Alors, on sait déjà beaucoup de choses. On en est quand même à 5 ans d'enquête. Et pour rebondir, première partie de l'émission, rien n'est normal dans cette instruction, parce que à la fois les faits et à la fois le mise en examen est de caractère totalement exceptionnel. Et c'est pas tous les jours qu'on a un mise en examen qui peut aller aux 20h de TF1 et avoir 2 pages dans un journal du dimanche pour expliquer sa défense. Alors, le dossier est assez fourni aujourd'hui. Il faut savoir que Serge Tournier, ils sont 3 juges d'instruction, mais Serge Tournier est un des meilleurs juges d'instruction en France aujourd'hui. Il est vraiment aguerri à ce genre de choses. On a un rapport de synthèse des policiers qui fait 22 pages. Donc on a 22 pages de témoignages, de faits. Donc 50 millions, il y a beaucoup de sommes, c'est vrai.
Beaucoup de sommes et des sommes qui, évidemment, sont contradictoires les unes avec les autres.
Non, elles ne le sont pas tant que ça, mais il faut faire le tri. On a ce document de Mediapart qui date de 2012, qui parle de 50 millions. Ça n'est pas l'hypothèse principale. C'est un document. Sarkozy dit que c'est un faux. La justice a dit que Mediapart avait eu raison de croire qu'il était vrai. On va le laisser de côté.
Mais alors, c'est un vrai ou c'est un faux?
Je ne peux pas me prononcer sur l'authenticité.
La justice dit on ne sait pas.
La justice dit on ne sait pas. Donc on va partir du principe qu'on ne sait pas.
Alors on ne sait pas.
Bon. Après tous les témoignages, que ce soit les témoignages de Ziad Takieddine, que ce soit les témoignages de l'ancien Premier ministre libyen, que ce soit le témoignage de tout un tas de dignitaires libyens, disent à peu près la même chose. Nicolas Sarkozy est venu en Libye en octobre 2005, avant son élection, et il a été convenu, je ne dis pas qu'il a été convenu avec lui, mais le régime libyen a décidé de financer sa campagne. Ces 5 millions d'euros auraient été transportés en liquide par Ziad Takieddine. C'est lui qui le dit, mais c'est aussi les dignitaires libyens. Dignitaires libyens qui sont aujourd'hui en prison en Libye et qui ont dit la même chose à des policiers et à la justice libyenne. Ça, c'est des témoignages. Donc, on peut imaginer, en effet, que sous les bombes, en 2011, alors qu'ils étaient tous en train de préparer leur fuite à la chute du régime, tous ces gens-là se soient réunis et par une espèce de conspiration, et décider de mentir et de dire tous la même chose. On peut l'envisager. On a néanmoins 2 preuves matérielles que les choses se sont passées ici. La première preuve matérielle, c'est le journal intime d'un monsieur qui s'appelle Choukri Ghanem, qui était l'ancien ministre du pétrole de Libye et qui est mort en avril 2012. Pas de chance, il se promenait petit matin au bord du Danube, il a fait une crise cardiaque.
C'est des choses qui arrivent.
Ce sont des choses qui arrivent. Et à la date de 2007, à une époque où c'était l'idylle entre la France et la Libye, pas de conspiration, il décrit comment plusieurs dignitaires ont envoyé plusieurs millions d'euros vers la France. Nicolas Sarkozy dit que ce document peut être un faux et qu'on ne sait pas à quelle date il a été écrit. Bon, mais pour l'instant, il est le seul à le dire. Le deuxième élément tangible, c'est que M. Senoussi, qui est l'ancien chef des services secrets, dit depuis sa prison que, en plus du cash, il a fait un virement de 2 millions d'euros à M. Ziad Takieddine, qui aurait fait le factotum, le transporteur, sa commission. Ce virement a été retrouvé. Et il y a bien un virement qui part d'un compte libyen sur un compte de Ziyad Taqiyedine. Donc cela est corroboré. La défense de Nicolas Sarkozy, son entourage aujourd'hui, pour l'instant, dit il y a peut-être eu du cash envoyé. Ça commence à devenir compliqué de dire qu'il n'y en a pas eu. Ça ne veut pas dire qu'on l'a reçu. Ça ne veut pas dire qu'on l'a reçu. Et à l'autre bout, vous avez raison, pour l'instant, on a deux éléments. On a du cash à circuler pendant la campagne de 2007, mais pas du tout dans les quantités de 5 millions. En même temps, qui va aller déclarer à la justice « Oui, moi j'ai touché des milliers d'euros en liquide, il y a quand même un petit problème de fraude fiscale. » Mais enfin bon, on a quand même des gens qui sont venus dire que oui, ils avaient touché des primes, 500, 1000, 2000 euros en liquide. Ça fait 35 000, c'est pas beaucoup. Mais enfin bon, qui irait mais on a du témoignage qu'il y a eu du cash dont on ne connaît pas l'origine. Mais si vous voulez, on a l'émission, on a l'arrivée et on ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux.
Au-delà de ces 35 000 euros, Caroline Michel, est-on capable de savoir si ces 5 millions d'euros qui auraient été touchés donc par Nicolas Sarkozy auraient été dépensés de telle ou telle manière pendant la campagne électorale ?
Non. Aucune manière. Pour l'instant, le travail des juges, c'est d'essayer de savoir, de démontrer qui a reçu ces 5 millions.
Sait-on s'il y a un lien entre ces 5 millions, possiblement versés, et un certain nombre de dépenses en liquide de Claude Guéant, puisqu'on a appris par ailleurs que Claude Guéant allait rarement au distributeur de billets de banque, puisqu'il aurait, je crois, retiré 2000 euros en 10 ans.
800.
800 euros, bon, ouais. Vous voyez, donc c'est encore moins, donc il a un petit train de vie. Est-ce qu'il y aurait donc la possibilité d'établir un lien entre ces 5 millions d'euros et ces 800 euros ?
Alors, aujourd'hui, ça fait partie des grandes inconnues, évidemment. En 9 ans, M. Claude Guéant n'a retiré en liquide que 800 euros de ses comptes. En revanche, il a dépensé. Il a beaucoup dépensé et il a dépensé en liquide. Il a dépensé 119 000 euros pour son train de vie en liquide. Il a aussi donné de la main.
Comment sait-on qu'il a dépensé ? Parce que le liquide, par définition, laisse peu de traces, sauf si on veut en laisser.
Quand vous commandez des voyages, quand vous payez des taxis, quand vous avez voilà, il y a suffisamment de justificatifs pour calculer ça.
Donc, à minima, 119 000 euros.
Plus 160 000 euros remis pour aider son fils. Et là, on a le témoignage de sa belle-fille qui dit oui, c'était des grosses coupures, c'était 100-200 euros. Au final, puisqu'il y avait aussi, et il a été condamné pour ça, il a aussi utilisé les frais d'enquête du ministère de l'Intérieur pour payer son train de vie. Donc ça a été déduit, c'est normal. Mais au final, les enquêteurs écrivent qu'il y a 200 000 euros dont on ne connaît pas l'origine aujourd'hui. Ça, c'est un premier fait. Le deuxième fait, c'est que pendant la campagne de 2007, M. Claude Guéant avait loué un coffre-fort suffisamment grand pour qu'un homme s'y tienne debout.
Et c'était pas pour y mettre un homme.
C'était pour y mettre des archives personnelles et des discours de Nicolas Sarkozy. Et
ces discours étaient peut-être très précieux.
Tellement précieux qu'il s'est rendu à plusieurs reprises dans ce coffre tout au long de la campagne pour, on l'imagine, consulter ses archives qui avaient besoin d'être dans un coffre-fort. Donc là aussi, c'est une interrogation auquel on n'a pas de réponse aujourd'hui. Mais vous voyez bien que mis bout à bout, ça fait quand même un dossier qui est loin d'être vide et qui est loin d'être quelques témoignages de gens dont on nierait la crédibilité.
Le calendrier de cette procédure a-t-il un lien avec, par exemple, l'arrestation d'Alexandre Joury ? Et là, peut-être serait-il bon de rappeler le rôle qu'aurait pu jouer Alexandre Joury ? Quel lien y a-t-il entre ce personnage dont vous allez nous rappeler les activités et l'enquête en cours, Caroline Michel ?
Alors, la complexité du sujet, c'est qu'il y a probablement eu deux circuits de financement. Et savoir que M. Ziyad Taqiyedine et M. Alexandre Joury sont des concurrents, des rivaux. Et ils avaient chacun leur contact, à la fois à Paris et à la fois en Libye. L'arrestation d'Alexandre Joury est le témoignage d'autre chose. Enfin, l'arrestation, il est détenu à Londres, on ne l'a pas encore en France. Et le témoignage d'autre chose, une perquisition avait été menée chez lui en 2015 et la justice française n'a reçu les documents de cette perquisition qu'en décembre décembre 2017. À ce moment-là, le mandat d'arrêt est émis et c'est pour ça qu'il est détenu à Londres. Monsieur Claude Guéant et monsieur Alexandre Joury étaient en relation, on le sait, monsieur Guéant ne l'a jamais nié. C'est un autre circuit potentiel.
Et est-ce qu'il y aurait un lien entre cette arrestation-là ? Vous dites que on n'a pas le contenu. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'Alexandre Joury est actuellement souffrant et qu'il n'est pas extradable et peut-être n'est-il même pas en état d'être entendu. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est cela qui aurait précipité la garde à vue de Nicolas Sarkozy ?
Alors, je ne suis pas dans la tête des juges, même si j'aimerais bien, comme vous l'imaginez.
On dit que les journalistes ne sont pas dans la tête des juges, mais sur le bureau des juges, qu'ils ont la possibilité de trouver en tout cas un certain nombre de documents que Maître Léman, ici présent, dit ne pas avoir consulté. Est-ce que c'est vrai, Caroline Michel ?
Non. Enfin, à titre personnel, je ne suis pas en lien direct avec le juge Tournaire. Ça ne nous empêche pas de savoir beaucoup de choses, d'enquêter de notre côté. Dans une affaire pareille, il y a des dizaines de témoins, des gens qu'on entend, des gens qu'on connaît. Quelqu'un comme Alexandre Joury, moi ça fait 10 ans que je travaille dessus, donc on a leur profil. Évidemment, le travail d'enquête, on le suit et on finit par le connaître. Mais il ne faut pas imaginer que M. Tournaire nous appelle pour nous dire ce qu'il va faire et pourquoi. Et donc, pour répondre à votre question, je pense que la mise en examen de M. Nicolas Sarkozy est à mettre beaucoup plus en lien avec les témoignages qui ont été obtenus par la justice libyenne auprès des détenus libyens, des anciens dignitaires libyens, qu'avec l'extradition, enfin l'incarcération d'Alexandre Joury, même si évidemment ça crée un contexte, une pression qui monte et on voit bien que les choses se précipitent. C'est 5 ans d'enquête dont les éléments commencent à s'accumuler et à être livrés.
Maître Léman, votre point de vue sur ce que vient de narrer Caroline Michel, est-ce que lorsqu'on a cet exposé, c'est fait, bien entendu Nicolas Sarkozy est présumé innocent, mais est-ce qu'il n'y a pas un niveau où on se dit qu'il y a un certain nombre d'indices, des choses qui peuvent justifier une procédure judiciaire ?
Écoutez, moi je viens d'entendre un magnifique réquisitoire. J'adore les réquisitoires des procureurs parce que mon métier c'est d'y répondre.
Alors je ne suis absolument pas juge ni procureur.
Écoutez, je vous ai entendu dire, il y a eu plusieurs circuits de financement. On n'en sait rien.
C'est une hypothèse.
Mais si on met tout ce discours au conditionnel,
alors ça change tout. Voilà, c'est la différence entre présumé innocent et présumé coupable, le conditionnel.
Bien entendu. Si on considère qu'il y a un certain nombre de choses qui sont étonnantes et qui nécessitent à minima des explications, on peut avoir un grand coffre-fort pour y mettre du papier journal, mais on peut aussi y mettre autre chose. Lorsqu'on a tous ces indices-là, Maître Léman, qu'est-ce que l'on peut dire ? Est-ce qu'à minima, on peut considérer qu'il faut une procédure judiciaire et que cette procédure judiciaire se justifie ?
Alors oui, il faut une procédure judiciaire, c'est bien d'instruire, c'est bien de rechercher, mais il faut d'abord instruire à charge et à décharge. Il faut aussi un peu que ceux qui ont accès au dossier, c'est-à-dire les journalistes bien informés, vous par exemple, Mediapart par exemple, présentent les choses de manière un peu plus objective que ce qui vient d'être fait, puisque là, on vient d'entendre 10 minutes d'un réquisitoire. À la fin de celui-ci, on se dit, mon Dieu, il n'y a plus qu'à le condamner, et puis c'est réglé. Les choses sont quand même plus compliquées que ça.
Les journalistes ont le droit d'instruire à charge.
Alors ça, c'est une belle question, l'éthique du journaliste. Je crois que l'éthique du journaliste, c'est de ne publier que des faits vérifiés.
Je ne parle pas de cette éthique en particulier. Si vous dites que j'ai instruit à charge, c'est faux. Je vous ai présenté ce que l'on sait et ce que l'on peut supposer. Non. Si vous me demandez, est-ce que Nicolas Sarkozy s'est laissé corrompre, ce qui est une question, je vous dirais, je n'en sais rien.
Oui, enfin, après ce que vous avez dit, vous n'avez pas besoin de...
Je peux dire, par exemple, que l'on a le droit de suivre une piste en étant journaliste. Vous évoquiez la coloration, l'inclinaison politique, l'éthos du juge Tournaire. Il y a l'Obs dans un certain nombre de journaux, Mediapart aussi, une inclinaison. Voilà, il est normal que le Figaro Barrot considère plutôt l'innocence de Nicolas Sarkozy et Lopes plutôt sa culpabilité.
Absolument, nous sommes d'accord. Eh bien, je voulais rien dire d'autre que cela. Moi, j'ai pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, moi, j'ai pas d'accès au dossier parce que ni les juges d'instruction ni les policiers ne me l'ouvrent. Parce que ça s'appelle le secret de l'instruction. Hein. Donc, je lis Mediapart, un petit Lopes aussi, pour savoir ce
vous
que...
Vous devriez lire Lopes, jeudi.
Oui, oui, mais je lis Lopes, je lis Mediapart, et comme ça que je sais les choses. Alors, ce que je vois quand même, c'est que moi, je ne suis pas l'avocat de Nicolas Sarkozy, hein, mais quand même, l'essentiel des éléments, des indices à charge, ce sont des déclarations de personnes qui, évidemment, n'aiment pas Nicolas Sarkozy, puisque c'est l'entourage de Kadhafi que Nicolas Sarkozy a fait exploser au sens propre du terme. Donc, des témoignages qui sont d'ailleurs divergents, qui ne disent pas la même chose les uns des autres, de personnes...
Lesquelles ? Est-ce que vous avez des preuves qu'il y a des propos divergents dans ce dossier ?
Bah oui, par exemple sur les sommes. Par exemple, la personne qui prétendument aurait signé le fameux document dont on se demandait si c'était un faux ou pas, il dit « je l'ai jamais signé ». Donc, il y a des témoignages qui sont divergents. Ce n'est pas du tout aussi monolithique que ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure. Le dossier est beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup plus... Il part beaucoup plus dans tous les sens. Et en réalité, on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Et moi, je suis bien incapable de vous dire si à la fin, la justice considérera qu'il y a eu ou non corruption.
Hervé Léman, face à ces pièces, face à ce dossier et l'atroce culpabilité qui pèse sur un homme qui a été le président de la République, n'y a-t-il pas la possibilité d'autoriser des procédures qui ne sont pas des procédures habituelles, sachant que Nicolas Sarkozy lui-même disait qu'on pouvait oublier dans certains cas l'état de droit? Est-ce que là, on ne peut pas oublier l'état de droit, par exemple, en faisant des écoutes téléphoniques où on écoute les conversations d'un homme et de son conseil? Est-ce que là, ça ne se justifie pas?
Il ne faut jamais porter une atteinte à l'état de droit. Jamais. Quelle que soit la gravité des faits, on respecte l'état de droit pour des faits bien pires qui sont des faits de terrorisme. Donc il n'est pas question de dire, parce que c'est Nicolas Sarkozy, moi, mon Dieu, l'état de droit, c'est pas si grave que ça, et on peut bien écouter ces conversations avec son avocat.
Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la manifestation de la vérité était tellement importante, puisqu'on ne peut pas vivre avec l'hypothèse qu'un ancien président de la République ait été un malfrat, j'emploie le terme que vous utilisiez tout à l'heure. Donc, il faut que la vérité soit révélée.
Oui, et pour ça... Tout à fait. Il faut que la vérité soit révélée, et il faut qu'elle soit révélée dans des conditions normales, avec un débat judiciaire normal. C'est-à-dire avec des juges qui se comportent comme on se comporte normalement dans ce type d'affaires, et avec également une presse qui rend compte des éléments à charge et des éléments à décharge. Et je dois dire que je ne pense pas à vous, hein, je pense en particulier à Mediapart. Hein. Moi, quand j'entends Edouard Plenel venir dire sur les antennes qu'il est probable que la France a fait la guerre à la Libye pour se débarrasser de Nicolas Sarkozy, si ça c'est pas du complotisme, c'est quoi alors?
Je ne l'ai pas entendu dire cela, mais ce qui est important, Hervé Léman, c'est que la presse peut fonctionner de manière dialectique. Encore une fois, il y a une presse plutôt favorable à Nicolas Sarkozy, une autre qui lui est plutôt hostile. Caroline Michel, la suite, selon vous, de cette procédure, Hervé Léman donc a pointé un certain nombre de choses qui lui paraissent étonnantes. Avez-vous la sensation, effectivement, qu'on est face à une justice politique? Je le dis plus brutalement que ce que Hervé Léman a dit tout à l'heure, mais je crois que cela reprend en quelque sorte la substance de ce qu'il pense.
Je suis quand même assez choquée d'entendre dire que Lopes écrirait sur les affaires de droite et pas sur les affaires de gauche, ce qui est faux. Je peux factuellement vous le démontrer, mais on ne va pas revenir là-dessus. Et j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'on aurait ce débat-là sur, par exemple, Nordal-Lelandais, dont, avant les aveux, pendant 3 mois, le procureur, les gendarmes, la justice nous a repéré des moindres détails de l'avancée de l'enquête. Je n'ai pas entendu un seul débat, ni ici, ni ailleurs, pour savoir si le secret de l'enquête devait être respecté pour ce monsieur. Ah si, pardon.
Mais peu importe, Caroline Michel.
Mais bien sûr que si. Le procureur de la République a fait une conférence de presse spéciale pour s'élever contre la manière dont cette affaire été traité. L'avocat en charge du dossier a été rappelé à l'ordre par son bâtonnier. Oui, bien sûr, l'affaire dont vous parlez a été traitée d'une façon qui n'est pas normale non plus. Excusez-moi, l'affaire de Norman Hollandaise, c'est pas exactement la même chose quand même qu'un ancien président de la République.
Caroline Michel.
Quelle différence
Je fais une différence entre l'assassinat l'assassinat d'une femme et une hypothétique financement de campagne électorale.
Alors, moi, je pense, et que c'est la démarche des juges, au-delà de tout point de vue politique, ce que vous dites en filigrane, c'est qu'on doit prendre plus de précautions avec M. Nicolas Sarkozy, parce qu'il a été un chef d'État, qu'avec un autre justiciable. Sur ce point, je pense encore une fois que la normalité que vous réclamez n'est pas une vraie normalité. Vous demandez, d'une certaine manière, un caractère exceptionnel dans la manière de traiter Nicolas Sarkozy. Est-ce que oui ou non, on doit le traiter de manière exceptionnelle? À titre personnel, je pense que toute cette affaire est exceptionnelle, à la fois le soupçon, à la fois la qualité du mise en examen. On ne peut pas être dans une procédure normale, tout simplement parce que Nicolas Sarkozy lui-même médiatise à outrance sa défense. Donc il est assez, il serait assez déséquilibré que rien ne fuite de l'enquête, aucun élément, que tous les journalistes s'astreignent à un secret qui ne les concerne pas au demeurant et ne donne aucun élément. Que dirait-on si la presse n'écrivait rien et qu'on pouvait avoir Nicolas Sarkozy qui donnait tous les éléments de sa défense dans la presse et dans les médias? Je trouve, moi, à titre personnel, je le répète, je ne condamne personne, je n'ai donné que des faits. Il y a plein de choses, si vous me posez la question, je ne sais pas, mais de fait, quand un dossier est médiatisé, c'est normal que les éléments de l'enquête le soient aussi.
Maître Léman.
Oui, je ne suis pas d'accord. Je pense que Nicolas Sarkozy n'a pas été traité comme un justiciable normal, placé dans une situation identique. Vous comparez avec quelqu'un qui a tué sa femme. Excusez-moi, les choses ne sont pas identiques. Vous pourriez dire aussi, ah ben les sérieux.
Vous pourriez dire, probablement d'autres films.
Excusez-moi, c'est une petite fille. C'est pas beaucoup mieux.
Au-delà de ce cas-là.
Nicolas Sarkozy à un serial killer, excusez-moi, c'est encore pire que ce que je pensais.
Juste un point. Non, Caroline Franck, Michel ne faisait pas cela.
Non.
Elle considérait que la pression médiatique, parce qu'il y a un point commun entre ces deux affaires, peut-être uniquement un point commun, mais il est là, c'est la pression médiatique. Le fait que aujourd'hui, les juges, les avocats travaillent sous la pression médiatique. Est-ce que ça n'est pas finalement cela qui provoque l'emballement que vous dénonciez tout à l'heure au sujet de la procédure relative à Nicolas Sarkozy?
Non, c'est pas la pression médiatique qui fait qu'on a mis un ancien président de la République, leader de l'opposition, 8 mois sous écoute téléphonique, avec les écoutes sur le bureau du garde des Sceaux tous les jours. C'est un vrai problème de démocratie et d'état de droit, ça. C'est quelque chose qui est extrêmement choquant. Et à une époque, excusez-moi, où dans le dossier, il n'y avait rien. Et c'est parce qu'il n'y avait rien dans le dossier qu'on l'a mis sous écoute pendant 8 mois.
Pour trouver qu'on l'a mis sous écoute.
Voilà, exactement.
On l'a trouvé.
Alors, moi, la différence avec Caroline Michel, c'est que moi, je ne crois pas qu'on doit traiter un ancien président de la République ou quelqu'un comme lui, un ministre ou même un citoyen lambda, comme on traite des terroristes ou des assassins. C'est pas la même chose.
C'est-à-dire qu'il
on est présumé innocent, quelles que soient les charges qui pèsent à la fin sur.
Exactement. Enfin, c'est pas la même chose. Vous avez une législation spéciale, vous avez une durée de garde à vue qui est particulièrement longue, par exemple, pour les affaires de terrorisme. On va pas dire, on va faire une garde à vue de 6 jours pour Nicolas Sarkozy, parce qu'on doit le traiter comme les autres. Je veux dire, ça n'a pas de sens de dire on doit traiter tout le monde de la même manière. On doit traiter les choses comparables de façon comparable. Eh bien, personne dans des dossiers financiers n'est traité comme Nicolas Sarkozy.
Mais d'ailleurs, il n'a pas été traité comme un justiciable lambda, puisqu'il est rentré dormir chez lui pendant sa garde à vue, Maître Léman.
Oui, vous avez raison. C'est vrai, il est rentré chez lui pour... Et donc, à quoi servait cette garde à vue, franchement,
hein? En fait, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est-à-dire, oui. On peut considérer ou bien que celle-ci, la garde à vue, était abusive, ou bien que le fait de rentrer chez lui était un traitement qui le mettait dans une situation distincte de celle d'un justiciable lambda.
Vous avez raison, mais c'est un peu absurde. Ce qui est très clair, c'est puisqu'on l'a rentré chez lui, sa garde à vue ne servait à rien. Alors pourquoi l'a-t-on mis en garde à vue ?
Caroline, j'ai un point de vue là-dessus.
Deux choses. De toute manière, quoi qu'aurait fait le juge Tourneur, on lui aurait reproché. Il n'aurait pas mis en garde à vue, on aurait dit il fait un traitement spécial. Il l'aurait laissé dormir en prison, on aurait dit c'est horrible. On le laisse rentrer chez lui, on dit que c'est pas normal. Donc quoi qu'il arrive dans un dossier pareil, rien ne marche. Je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit. On l'a mis sur écoute à un moment où le dossier était vide. Alors, à ma connaissance, la justice n'ouvre pas d'enquête sur un dossier vide. Cela est faux. Il y avait déjà des témoignages de Ziad Taqiyedine et des éléments. Donc le dossier n'était pas totalement vide. Le deuxième point, c'est que la particularité de M. Tourneur, c'est d'avoir appliqué à ses dossiers financiers des méthodes du grand banditisme. Bon, alors on les applique pour des délinquants, on les applique pour des trafiquants de drogue. Aujourd'hui, il les applique et pas que pour M. Sarkozy, pour ce qui est soupçonné d'être de la délinquance financière. Juste, pas juste, je ne sais pas, je constate.
Quel
dommage que messieurs Bayrou, Ferrand et que Mme Pénicaud n'aient pas droit à ce grand juge qui applique les méthodes des délinquants pour les personnages politiques.
Je ne suis pas le défenseur de ces personnes que vous venez d'évoquer, Hervé Léman, mais on peut considérer qu'il y a un degré de gravité entre, par exemple, quelqu'un qui va faire un montage scabreux pour acheter un local commercial.
Je crois qu'il fallait traiter tout le monde de la même manière. Alors,
non, vous venez de dire qu'il fallait les traiter de manière différenciée. Bon, moi, je me range au lémanisme sur ce plan-là.
Écoutez, je vous remercie d'être...
J'espère qu'on est plusieurs, quand même.
J'ai mon premier adhérent, je suis bien content. Mais c'est une façon de fonctionner qui n'est pas une façon normale. C'est-à-dire que considérer qu'on doit traiter Nicolas Sarkozy et François Fillon comme des délinquants de droit commun, c'est quelque chose qui n'est pas normal.
Caroline Michel, un mot de conclusion.
François Fillon, cette affaire, elle devrait être un exemple dans la rapidité. Au lieu de déplorer que François Fillon ait été traité trop rapidement, on devrait se féliciter et espérer que la justice aille toujours aussi vite.
Mais bien sûr. Ce qui ne marche pas, c'est quand la justice fonctionne de façon inhabituelle à l'égard des leaders de l'opposition.
Caroline Michel, on vous retrouve dans l'Obs jeudi prochain. Alors, des choses particulières.
Vous aurez 10 pages sur cette affaire et les lecteurs pourront se faire leur idée parce que c'est présenté à charge et à décharge.
Et ceux qui veulent se convertir au lémanisme peuvent lire le livre d'Hervé Léman, Le procès Fillon. C'est publié aux éditions du Cerf